Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 14-7. Le 25 juin 1530. Les confesseurs d'Augsbourg. Souvenirs et contrastes. La confession. Prologue. Justification par la foi. L'Église. Sainte Cène. Libre arbitre. Les œuvres mortes et la foi vivante. Les princes devenus prédicateurs. Seconde partie. Les erreurs. Pratiques et œuvres romaines. Les deux pouvoirs. Il faut les distinguer. Clarté. Argumentation. Les jours créateurs. Indépendance des deux sociétés. Pas de glaive. Ménagement pour l'Église catholique. Lacune. Le baptême de l'Église évangélique. Enfin, le 25 juin commença. Ce devait être le plus grand jour de la Réformation et l'un des plus beaux de l'histoire du christianisme et de celle de l'humanité. La chapelle du palais palatin, où l'empereur avait résolu d'entendre la confession, ne pouvant contenir qu'environ 200 personnes, on vit avant 3 heures une grande foule remplir la cour du palais dans l'espoir d'entendre au moins quelques paroles. Plusieurs même pénétrèrent dans la chapelle. On en fit sortir ceux qui n'étaient pas conseillers des princes. Charles s'assit sur son trône. Les électeurs ou leurs représentants se mirent à sa droite et à sa gauche, puis les autres princes et députés de l'Empire. Le légat avait refusé d'assister à cette solennité, de peur de paraître autorisé par sa présence la lecture de la confession. Alors se levèrent Jean, électeur de Saxe, avec son fils Jean-Frédéric, Philippe, landgrave de Hesse, le margrave Georges de Brandebourg, Wolfgang, le prince d'Anhalt, Ernest, duc de Brunswick-Lunebourg, et son frère François. Enfin, des députés de Nuremberg et de Reutlingen. Leur regard était animé et leur face radieuse. Les apologies des premiers chrétiens, des Tertulliens et des Justins martyrs parvenaient à peine par écrit aux empereurs auxquels elles étaient adressées. Mais maintenant voici, pour entendre l'apologie du christianisme ressuscité, ce puissant empereur, dont le sceptre, s'étendant bien au-delà des colonnes d'Hercule, atteint les dernières limites de l'univers. Son frère, le roi des Romains, des électeurs, des princes, des prélats, des députés, des ambassadeurs, qui tous voudraient anéantir l'Évangile, mais qui sont contraints par une puissance invisible à en entendre et par là même à en honorer la confession. Une pensée se présentait involontairement à l'esprit des assistants. C'était le souvenir de la diète de Worms. Il y avait 9 ans qu'un pauvre moine était seul debout, pour cette même cause, dans une salle de l'hôtel de ville de Worms, en présence de l'Empire. Et maintenant, à sa place, voilà le premier des électeurs. Voilà des princes et des cités. Quelle victoire se fait signal! Sans doute Charles Quint lui-même ne put se soustraire à ce souvenir. L'empereur, voyant les protestants se lever, leur fit signe de se rasseoir, et alors les 2 chanceliers de l'électeur, Bruck et Bayer, s'avancèrent au milieu de la salle et se placèrent en face du trône, tenant en main le premier l'exemplaire latin, le second l'exemplaire allemand de la confession. L'empereur demanda qu'on lût la confession en latin. « Nous sommes Allemands, dit l'électeur de Saxe, et sur terre allemande. J'espère donc que votre majesté nous permettra de parler allemand. » Si l'on eût lu la confession en latin, langue inconnue de la plupart des princes, l'effet général eût été perdu. C'était un autre moyen de fermer la bouche à l'évangile. L'empereur se rendit à la demande de l'électeur. Alors Bayer commença à lire la confession évangélique, lentement, gravement, distinctement, d'une voix claire, étendue et sonore, qui retentissait sous les voûtes de la chapelle et portait même au dehors ce grand témoignage rendu à la vérité. Sérénissime, très puissant, invincible empereur et très gracieux seigneur, dit-il. Nous, qui comparaissons en votre présence, nous nous déclarons prêts à conférer amicalement avec vous sur les voies les plus propres à rétablir une seule, vraie et même foi, puisque c'est pour un seul et même Christ que nous combattons. Et dans le cas où les dissensions religieuses ne pourraient être réglées amicalement, alors nous offrons à votre majesté d'exposer notre cause en présence d'un concile universel, libre et chrétien. Le prologue terminé, Bayer confessa d'abord la Sainte Trinité, conformément au concile de Nicée, le péché originel et héréditaire, qui apporte à tous ceux qui ne sont pas régénérés la mort éternelle, l'incarnation du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Nous enseignons de plus, continua-t-il, que nous ne pouvons être justifiés devant Dieu par nos propres forces, nos mérites et nos œuvres, mais que nous le sommes à cause de Christ, par grâce, par le moyen de la foi, quand nous croyons que les péchés sont remis en vertu de Christ, qui, par sa mort, a satisfait pour nos fautes. Cette foi est la justice que Dieu impute aux pécheurs. Mais nous enseignons en même temps que cette foi doit produire de bons fruits, et qu'il faut faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a commandées pour l'amour de Dieu, et non pour gagner par elle la grâce de Dieu. Les protestants déclarèrent ensuite leur foi en l'Église chrétienne, qui est, dirent-ils, l'assemblée de tous les vrais croyants et de tous les saints, au milieu desquels il y a néanmoins dans cette vie beaucoup de faux chrétiens, d'hypocrites et même de pécheurs déclarés. Et ils ajoutèrent qu'il suffisait pour la vraie unité de l'Église que l'on fût d'accord sur la doctrine de l'Évangile et l'administration des sacrements, sans que les rites et les cérémonies instituées par les hommes fussent par tous les mêmes. Ils proclamèrent la nécessité du baptême, et déclarèrent que le corps et le sang de Christ sont véritablement présents et administrés dans la scène du Seigneur à ceux qui mangent. Puis, le chancelier confessa successivement la foi des chrétiens évangéliques touchant la confession, la pénitence, la nature des sacrements, le gouvernement de l'Église, les ordonnances ecclésiastiques, le gouvernement politique et le jugement dernier. Quant au libre arbitre, continua-t-il, nous confessons que la volonté humaine a quelque liberté d'accomplir la justice civile et d'aimer les choses que la raison comprend, que l'homme peut faire le bien qui est du ressort de la nature, travailler au champ, manger, boire, avoir un ami, mettre un habit, bâtir une maison, prendre femme, nourrir du bétail, exercer un état. Comme aussi il peut, de son propre mouvement, faire le mal, s'agenouiller devant une idole et accomplir un meurtre. Mais nous maintenons que sans l'Esprit-Saint, il ne peut faire ce qui est juste devant Dieu. Puis, revenant à la grande doctrine de la Réformation et rappelant que les docteurs du pape n'ont jamais cessé de pousser les fidèles à des œuvres puériles et inutile, comme l'usage des chapelets, le service des saints, les vœux monastiques, les processions, les maigres, les fêtes, les confréries. Les protestants ajoutaient que pour eux, tout en pressant la pratique des œuvres vraiment chrétiennes, dont on avait peu parlé avant eux, ils enseignaient qu'on est justifié par la foi seule. Non par cette foi qui est une simple connaissance de l'histoire, et que les impies et les démons eux-mêmes possèdent, mais par une foi qui ne croit pas seulement l'histoire, mais aussi les faits de l'histoire, qui croit que par Christ nous avons la grâce, qui sait qu'en Christ nous avons un Père propice, qui connaît ce Dieu, qui l'invoque, en un mot, qui n'est pas sans Dieu comme le sont les païens. Tel est, dit Bayer, le sommet de la doctrine professée dans nos églises, par où l'on peut voir que cette doctrine n'est nullement opposée aux Écritures, à l'Église universelle, ni même à l'Église romaine, telle que les docteurs nous la font connaître. Et puisqu'il en est ainsi, nous rejeter comme hérétiques, c'est se rendre coupable envers l'unité et la charité. Ici se terminait la première partie de la confession, celle qui avait pour but d'exposer la doctrine évangélique. Le chancelier lisait d'une voix si distincte que la foule qui n'avait pu pénétrer dans la salle et qui remplissait la cour du palais épiscopal et tous ses abords ne perdait pas un mot. Cette lecture produisit sur les princes qui remplissaient la chapelle l'effet le plus merveilleux. Jonas suivait des yeux tous les mouvements de leur physionomie et y lisait l'intérêt, l'étonnement et même l'approbation. Les adversaires s'imaginent avoir fait merveille en interdisant la prédication de l'Évangile, écrivait Luther à l'électeur. Et ils ne voient pas les malheureux que par la lecture de la confession en présence de la diète, vous avez bien plus prêché que 10 prédicateurs n'auraient pu le faire. Finesse exquise, expédient admirable. Maître Agricola et les autres ministres doivent se taire. Mais à leur place se présentent les lecteurs de Saxe et les autres princes et seigneurs qui prêchent devant Sa Majesté impériale et les membres de tout l'Empire, librement, à leur barbe et à leur nez. Oui, Christ lui-même est en diète et il n'y garde pas le silence. La parole de Dieu ne peut être liée. On l'interdit dans les chaires et on doit l'entendre dans les palais. De pauvres ministres ne peuvent l'annoncer et de grands princes la proclament. On défend aux serviteurs de l'écouter et leurs maîtres sont contraints de l'ouïr. On ne la veut pas pendant la durée de la diète et on doit se résigner à en entendre plus en un seul jour qu'on ne l'a fait en toute une année. Quand tous doivent se taire, alors les pierres crient, comme parle notre Seigneur Jésus-Christ. La partie de la confession destinée à signaler les erreurs et les abus restait encore. Bayer continua. Il exposa et démontra la doctrine des deux espèces dans l'Eucharistie. Il attaqua le célibat obligatoire des prêtres, soutint que la scène du Seigneur avait été changée en une véritable foire, où il n'était question que de vente et d'achat, et qu'elle avait été rétablie dans sa pureté primitive par la Réformation, et était célébrée dans les églises évangéliques avec une dévotion et une gravité toutes nouvelles. Il déclara que l'on n'y donnait la scène à personne qui n'eût auparavant confessé ses fautes, et rappela ce mot de Chrysostome. Confesse-toi à Dieu, le Seigneur, ton véritable juge. Dis ton péché, non avec la langue, mais dans ta conscience et dans ton cœur. Bayer en vint ensuite au précepte sur la distinction des viandes et autres pratiques de Rome. Célébrer telle fête, dit-il, faire telle prière ou tel jeûne, être habillé de telle manière, et tant d'autres ordonnances des hommes, Voilà ce qu'on appelle maintenant une vie spirituelle et chrétienne. Tandis que les bonnes œuvres prescrites de Dieu, comme celle d'un père de famille, qui travaille pour nourrir sa femme, ses fils et ses filles, d'une mère qui met des enfants au monde et en prend soin, d'un prince ou d'un magistrat qui gouverne le peuple, sont regardées comme des choses séculières et d'une nature imparfaite. Quant aux vœux monastiques en particulier, il représenta que puisque les papes en donnaient dispense, rien ne s'opposait à ce qu'on les abolît. Le dernier article de la Confession traitait de l'autorité des évêques. Des princes puissants, couverts de la mitre épiscopale, étaient là. Les archevêques de Mayence, de Cologne, de Salzbourg et de Brême. Les évêques de Bamberg, de Würzburg, d'Eichstätt, de Worms, de Spire, de Strasbourg, d'Augsbourg, de Constante, de Coire, de Passau, de Liège, de Trente, de Brixen, de Lébus et de Ratzebourg, fixaient leurs regards sur l'humble confesseur. Il continua sans crainte, et, protestant avec énergie contre cette confusion de l'Église et de l'État qui avait signalé le Moyen-Âge, il réclama la distinction et l'indépendance des deux pouvoirs. Plusieurs, dit-il, ont maladroitement confondu la puissance des évêques et la puissance temporelle, et de cette confusion sont sorties de grandes guerres, des révoltes et des séditions. C'est pourquoi, pour rassurer les consciences, nous nous voyons contraints d'établir la différence qui existe entre la puissance de l'Église et la puissance du glaive. Nous enseignons donc que la puissance des clés ou des évêques est la puissance, ou le commandement de Dieu, de prêcher l'Évangile, de remettre ou retenir les péchés et d'administrer les sacrements. Cette puissance se rapporte aux biens éternels et ne s'exerce que par le ministère de la parole, et ne s'embarrasse pas de l'administration politique. L'administration politique, d'autre part, s'occupe de toute autre chose que de l'Évangile. Le magistrat protège non les âmes, mais les corps, les biens temporels. Il les défend contre les atteintes du dehors et contraint les hommes, par le glaive et les châtiments, à observer la justice civile et la paix. C'est pourquoi il faut bien se garder de mêler la puissance de l'Église et la puissance de l'État. La puissance de l'Église ne doit point envahir un office qui lui est étranger, car Christ lui-même a dit « Mon règne n'est pas de ce monde ». Et encore, « Qui m'a établi pour juge parmi vous ?» Saint Paul dit aux Philippiens « Notre bourgeoisie est dans le ciel ». Et aux Corinthiens, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. C'est ainsi que nous distinguons les deux gouvernements et les deux pouvoirs, et que nous les honorons, l'un et l'autre, comme les dons les plus excellents que Dieu ait octroyés ici-bas. L'office des évêques est donc de prêcher l'Évangile, de pardonner les péchés, d'exclure de l'Église chrétienne ceux qui se rebellent contre le Seigneur. Mais sans puissance humaine et uniquement par la parole de Dieu. Si les évêques font ainsi, les églises doivent leur être soumises selon cette déclaration de Christ « Qui vous écoute, m'écoute ». Mais si les évêques enseignent quelque chose qui soit contraire à l'Évangile, alors les églises ont un ordre de Dieu qui leur défend d'obéir. Saint Augustin lui-même écrit dans sa lettre contre Pertilien « Il ne faut point obéir aux évêques catholiques, s'ils s'égarent et enseignent quelque chose de contraire aux écritures canoniques de Dieu. » Après quelques discours sur les ordonnances et les traditions de l'Église, Bayer en vint à l'épilogue de la Confession. « Ce n'est point par haine que nous avons parlé, reprit-il, ni pour insulter qui que ce soit, mais nous avons exposé les doctrines que nous tenons pour essentielles, afin que l'on puisse comprendre que nous n'admettons ni dogme ni cérémonie qui soit contraire à la Sainte Écriture et à l'usage de l'Église universelle. Alors, Bayer se tut. Il avait parlé pendant 2 heures. Le silence et le recueillement plein de gravité de l'assemblée ne s'étaient pas démentis. Cette confession d'Augsbourg demeurera toujours l'un des chefs-d'œuvre de l'esprit humain, éclairé de l'esprit de Dieu. Le langage qu'on avait adopté, tout en étant parfaitement naturel, était le résultat d'une étude profonde des caractères. Ces princes, ces guerriers, ces politiques qui siégeaient au Palatinat, tout ignorant qu'ils étaient en théologie, comprenaient sans difficulté la doctrine des protestants. Car ce n'était pas dans le style de l'école qu'on la leur exposait, mais dans celui de la vie ordinaire, et avec une simplicité et une lucidité qui rendaient tout malentendu impossible. En même temps, la puissance de l'argumentation était d'autant plus remarquable qu'elle était plus cachée. Tantôt Mélenchon, car c'était bien Mélenchon qui parlait par la bouche de Bayer, se contentait de citer un seul passage de l'Écriture ou des Pères en faveur de la doctrine qu'il soutenait, et tantôt il prouvait d'autant plus fortement sa thèse qu'il semblait ne faire que l'exposer. D'un trait, il indiquait les fâcheuses conséquences qu'entraînerait le rejet de la foi qu'il professait, ou bien il en montrait d'un seul mot l'importance pour la prospérité de l'Église. En l'entendant, les hommes, même les plus hostiles, s'avouaient à eux-mêmes qu'il y avait bien quelque chose à dire en faveur de la secte nouvelle. À cette force d'argumentation, l'apologie joignait une prudence non moins remarquable. Mélenchon, en déclinant avec fermeté les erreurs attribuées à son parti, ne paraissait pas même sentir l'injustice de ses imputations erronées. Et en signalant les abus de la papauté, il ne les imputait pas expressément à ses adversaires, évitant avec soin tout ce qui pouvait irriter les esprits. Mais ce qu'il y a de plus admirable, c'est la vérité avec laquelle sa confession expose les dogmes essentiels du salut. Rome a coutume de représenter les réformateurs comme les créateurs des dogmes protestants. Mais ce n'est pas au XVIe siècle qu'il faut chercher les jours de cette création. Une trace lumineuse, dont Wycliffe et Augustin marquent les points les plus saillants, nous ramène au temps des apôtres. C'est là que brillent, dans tout leur éclat, les jours créateurs de la vérité évangélique. Cependant, il est vrai, et si c'était là ce que Rome veut dire, nous adhérerions pleinement à sa pensée, jamais, depuis saint Paul, la doctrine chrétienne ne brilla de tant de beauté, de profondeur et de vie qu'au jour de la Réformation. Parmi toutes ces doctrines, celle de l'Église, si longtemps défigurée, reparaît surtout dans sa pureté native. Avec quelle sagesse en particulier, les confesseurs d'Augsbourg protestent contre cette confusion de la religion et de la politique, qui, depuis l'époque déplorable de Constantin, avait changé le royaume de Dieu en une institution terrestre et charnelle. Sans doute, ce que la confession stigmatise avec le plus d'énergie, c'est l'intrusion de l'Église dans les choses de l'État. Mais pense-t-on que ce soit pour approuver celle de l'État dans les choses de l'Église? Le mal du Moyen-Âge était d'avoir asservi l'État à l'Église. Et les confesseurs d'Augsbourg se levèrent comme un seul homme pour le combattre. Le mal des 3 siècles qui se sont écoulés depuis lors, c'est d'avoir asservi l'Église à l'État. Et l'on peut croire que Luther et Mélenchon eussent trouvé contre ce désordre des foudres non moins puissantes. Ce qu'ils combattent en thèse générale, c'est la confusion des 2 sociétés. Ce qu'ils demandent, c'est leur indépendance. Je ne dis pas leur séparation, car la séparation de l'Église et de l'État fut une idée étrangère aux réformateurs. Si les confesseurs d'Augsbourg ne voulaient pas que la puissance ecclésiastique dominât la société civile, ils eussent encore moins voulu que les choses d'en bas opprimassent celles du ciel. Il est une application particulière de ce principe que la confession signale. Elle veut que les évêques répriment ceux qui obéissent à l'impiété, mais sans puissance humaine, et uniquement par la parole de Dieu. Elle rejette donc l'emploi du glaive dans le châtiment des hérétiques. C'est là, on le voit, un principe primitif, fondamental et essentiel de la Réformation, comme la doctrine contraire est un principe primitif, fondamental et essentiel de la papauté. Que si l'on trouve chez les protestants quelque écrit ou même quelque exemple contraire, ce n'est qu'un fait isolé qui ne saurait invalider les principes officiels de la Réforme. C'est l'une de ces exceptions qui servent à mieux faire ressortir la règle. Enfin, la confession d'Augsbourg n'usurpe point les droits de la parole de Dieu. Elle veut en être la servante et non la rivale. Elle ne fonde, elle ne règle pas la foi, mais simplement elle la professe. Nos églises enseignent, dit-elle, et l'on se rappelle que Luther ne la considérait que comme une prédication faite par des princes et des rois. Si elle eût voulu davantage, comme on l'a prétendu dès lors, elle se fût par là même annulée. Cependant, la confession suivit-elle en tout la voie exacte de la vérité. Il est permis d'en douter. Elle fait profession de ne point s'éloigner de l'enseignement de l'Église catholique, et même de celui de l'Église romaine. Elle entend sans doute par là l'ancienne Église romaine, car elle rejette le particularisme papiste qui, depuis 8 siècles environ, enchaînait les consciences. Cependant, la confession semble préoccupée de craintes superstitieuses quand il s'agit de s'écarter des opinions professées par quelques-uns des pères de l'Église, de rompre le réseau de la hiérarchie et d'agir à l'égard de Rome sans de coupable ménagement. C'est au moins ce que professe Mélenchon, son auteur. Nous ne mettons en avant aucun dogme, dit-il, qui ne soit fondé dans l'Évangile ou dans l'enseignement de l'Église catholique. Nous sommes prêts à concéder tout ce qui est nécessaire pour la dignité épiscopale, et pourvu que les évêques ne condamnent pas l'Évangile, nous conserverons tous les rites qui nous paraissent indifférents. En un mot, il n'est aucun fardeau que nous rejetions si nous pouvons nous en charger sans crime. Plusieurs penseront sans doute qu'un peu plus d'indépendance eût été convenable dans cette affaire, et qu'il eût mieux valu passer par-dessus les siècles qui ont suivi le temps des apôtres et pratiquer franchement le grand principe que la Réformation avait proclamé. Il n'y a pour des articles de foi d'autres fondements que la parole de Dieu. On a admiré la modération de Mélenchon, et en effet, en signalant les abus de Rome, ils se taisent sur ce qu'ils ont de plus révoltant, sur leur honteuse origine, leurs scandaleuses conséquences, et se contentent de montrer qu'ils sont en contradiction avec l'Écriture. Mais il fait plus. Il garde le silence sur le droit divin du pape, sur le nombre des sacrements et sur d'autres points encore. Sa grande affaire est de justifier l'Église renouvelée, et non d'attaquer l'Église déformée. La paix, la paix. Mais si au lieu de toute cette circonspection, la Réformation se fût avancée avec courage, eût entièrement dévoilé la parole de Dieu, et eût fait un appel énergique aux sympathies de réforme répandues alors dans les cœurs, n'eût-elle pas pris une position plus honorable, plus forte, et ne se fût-elle pas assurée de plus vastes conquêtes? L'intérêt que mit Charles Quint à écouter la confession semble douteux. Selon les uns, il s'efforçait de comprendre cette langue étrangère. Selon d'autres, il s'endormit. Il est facile de concilier ces témoignages contradictoires. La lecture finie, le chancelier Bruck s'avança, les deux exemplaires à la main, vers le secrétaire de l'empereur et les lui présenta. Charles Quint, fort réveillé dans ce moment, prit lui-même les deux confessions, remit l'exemplaire allemand, considéré comme officiel, à l'électeur de Mayence, et garda pour lui l'exemplaire latin. Puis, il fit répondre à l'électeur de Saxe et à ses alliés qu'il avait gracieusement entendu leur confession, mais que cette affaire étant d'une extrême importance, il avait besoin de temps pour en délibérer. La joie dont les protestants étaient remplis brillait dans leurs regards. Dieu avait été avec eux, et ils comprenaient que l'acte éclatant qui venait de s'accomplir leur imposait l'obligation de confesser la vérité avec une inébranlable persévérance. « Je tressaille de joie, écrivit Luther, de ce qu'il m'est donné de vivre à une époque où Christ est exalté publiquement par de si illustres confesseurs et dans une si glorieuse assemblée. » Toute l'Église évangélique, émue et renouvelée par cette confession publique de ses représentants, fut alors unie plus intimement à son divin chef et baptisée d'un nouveau baptême. Depuis le temps des apôtres, disait-on, ce sont les paroles d'un contemporain, il n'y a pas eu d'œuvre plus grande, ni de confession plus magnifique. L'empereur étant descendu de son trône, s'approcha des princes protestants et les pria à voix basse de ne point publier la confession. Les protestants l'ayant promis, chacun se retira.